vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul.
Je suis Ronny Abessidan, doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, la thèse scientifique n'aura plus de secret pour vous.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Dans cet épisode, nous allons parler des motivations qui poussent certains à se lancer dans une thèse, ainsi que les raisons pour lesquelles d'autres choisissent de ne pas en entreprendre une. Dans votre dernier épisode, nous avions discuté des succès et des abandons de thèse, et Robin a souligné l'importance d'identifier sa motivation profonde pour réussir. Ce sujet m'a semblé d'une importance capitale, et c'est pourquoi j'ai décidé d'en consacrer un épisode aujourd'hui. Alors, pourquoi se lancer dans une thèse? Pourquoi faire ensuite? C'est ces questions que nous allons aborder avec nos quatre invités du jour qui vont se présenter tour à tour. Commençons par Teddy. Teddy, est-ce que tu pourrais te présenter?
Bonjour à tous, je suis Teddy Furon et je suis directeur de recherche à l'INRIA, c'est l'Institut National de la Recherche en Informatique et Automatique. J'ai 48 ans et j'ai encadré une petite quinzaine de doctorants.
Super, on pourrait enchaîner avec Guillaume maintenant.
Bonjour tout le monde, donc moi je suis Guillaume Saez, je suis jeune chercheur qui sort de thèse à l'Université de Paris-Est. Et je suis aujourd'hui donc data scientist, chercheur data scientist dans une Quantmetrine part de Capgemini Invent et je suis aussi encore professeur attaché à l'université à côté de ça. Voilà.
Super, et du coup on peut continuer avec Marine.
Bonjour à tous, moi c'est Marine Romanzon. Alors, je suis encore étudiante. Je suis en deuxième année de master en data science. Avant, j'ai fait une école d'ingénieur Centrale Lille. Un peu le même parcours que Rony avant sa thèse. Et actuellement, je suis en stage de fin d'études chez Air France. Donc, je fais toujours de la data science.
Super. Et enfin, du coup, Lila.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lila Kouchoufo. Je suis en master 1. De physique fondamentale, parcours cosmologie à Lyon. Et là, je suis en stage dans le labo où Rony travaille.
Alors, comme vous l'avez sans doute compris, nos quatre invités vont témoigner pour le cas des thèses en sciences exactes et expérimentales. Pour le cas des sciences humaines et sociales, les motivations peuvent différer considérablement. Du coup, j'ai décidé de préparer un autre épisode sur le même thème pour ce type de thèse le mois prochain. Revenons sans plus tarder du coup à l'épisode actuel et j'aimerais notamment commencer ma discussion avec Lila et Marine. Déjà, je voudrais commencer avec Lila. Lila, donc là actuellement tu es en M1. Et en fait, si on cherche rapidement sur LinkedIn, on voit que tu te dis future chercheuse en cosmologie. Est-ce que du coup tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi c'est une telle envie de faire une thèse? Est-ce que déjà tu avais des pour ou des contre et comment ça se fait que tu sois complètement pour maintenant?
Oui, mais pas de problème. En fait, j'ai pas toujours voulu être chercheuse, mais j'ai toujours été intéressée par le sujet de l'astrophysique et de la cosmologie. Quand j'ai découvert, mais je pense que c'était quand j'étais au collège, j'ai découvert que c'était un vrai métier. Au lycée, j'ai découvert qu'on pouvait faire de la recherche. Et ensuite, dans les études supérieures, j'ai découvert que c'était plus que de la recherche comme on l'imagine quand on a un idéal en général dans notre tête et puis c'est avec le post-bac et notamment le master que j'ai découvert comment c'était un peu plus la recherche et je dirais qu'en fait je vois pas ce que je pourrais faire d'autre parce que je trouve que la recherche ça me correspond beaucoup par rapport à mon caractère et à ce que je veux faire, à ce qui m'intéresse surtout. Et c'est vrai que moi, je ne me vois pas dans le monde de l'entreprise, ou sauf si je n'ai pas le choix. Mais non, c'est vraiment la recherche qui m'attire autant.
Alors du coup, qu'est-ce qui t'attire exactement dans la recherche?
Déjà, le sujet, parce que je veux dire, la cosmologie, c'est dur à étudier autrement que par la recherche. Cette envie de vouloir répondre à des questions, des choses qu'on peut se poser en général. C'est surtout vrai, enfin c'est vrai dans tous les domaines, mais c'est surtout vrai en cosmologie parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et on aimerait toutes les découvrir, même si c'est vrai que c'est très compliqué. J'aime bien l'autonomie qu'il y a quand on est chercheur, le fait de gérer son temps, de gérer ce qu'on doit faire, ses priorités. À partir d'un sujet, se rendre compte qu'en fait, finalement, on va aller un peu à droite ou un peu à gauche. Je trouve ça intéressant parce qu'au final, ça veut dire que ce n'est pas une ligne droite et que bon, c'est une belle métaphore pour la vie. Donc, j'aime bien. Et moi, ouais, voilà, je dirais que c'est principalement pour ça.
Donc, en fait, toi, tu vois que des avantages, il n'y a pas d'inconvénients.
J'en ai quelques-uns, évidemment, parce que je suis pas, tout n'est pas linéaire, mais je dirais que, bon, ça c'est un peu basique, mais c'est vrai que le salaire, ça aide pas, surtout quand on est jeune, on nous dit, ouais, faire quelque chose où on gagne bien sa vie, mais je pense que c'est surtout qu'on gagne bien ou suffisamment et qu'on aime ce qu'on fait. Et comme je pense que j'aime la recherche, en tout cas, c'est le cas pour l'instant, de ce que j'ai découvert, ce que j'ai découvert avec le stage, etc. Après, en inconvénient, je dirais que c'est vrai que c'est pas forcément facile de faire de la recherche parce qu'on répond pas forcément à toutes les questions. Et donc, on peut vraiment, sur un sujet précis, passer toute sa vie à chercher une réponse. Et on peut même mourir sans trouver la réponse. Bon, je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, quoique si, ça peut l'être, mais ouais, ça peut être très frustrant.
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté frustration dans la recherche,
ouais.
Je confirme. Mais bon, ça fait partie du jeu.
Oui, voilà.
Et donc, tout à l'heure, tu mentionnais le fait que tu ne te voyais pas du tout dans une entreprise. Alors,
ouais.
Concrètement, pourquoi tu ne te vois pas du tout dans une entreprise? C'est quoi pour toi le monde de l'entreprise?
Moi, je pense que j'avais une vision très caricaturale de l'entreprise, d'un chef qui nous impose des choses, même si c'est vrai en recherche. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de liberté en recherche qu'en entreprise où on est obligé de respecter un code, une certaine manière d'être. On a tous des horaires de bureau, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que l'entreprise, c'est je pointe, j'arrive. Je ne sais pas si c'est vrai partout. J'arrive, je suis obligée de faire mes heures, je repars, je dois pointer. Voilà, j'ai un peu cette idée-là. Et comme je ne connais pas grand monde dans le milieu de l'entreprise, c'est vrai que ça renforce cette idée-là, alors que ça se trouve, j'ai tout à fait tort.
Ça marche. Alors du coup, peut-être qu'on peut passer à Marine. Marine, du coup, tu fais un stage dans l'entreprise. Est-ce que toi, tu as l'impression de vivre ce que vient de dire Lila?
Alors oui, du coup, je suis mon stage en entreprise et pas tellement. Alors déjà, nous, on ne pointe pas. Donc, tu arrives un peu, pas quand tu veux, hein, tu as quand même des meetings, des horaires à respecter, mais tu as quand même une liberté au niveau de tes horaires. Après, moi, je suis en stage, donc j'ai mon sujet de stage. Ça s'apparente un peu plus à de la recherche, on va dire, ce que je fais en ce moment. Donc, j'ai mon sujet et j'avance à mon rythme. Voilà, j'ai pas de contraintes comme tu as pu l'évoquer, Lila, avec un chef qui me demande de faire des choses. Mais c'est vrai que mes collègues, qui du coup, eux, n'ont pas forcément un sujet de recherche à titre, ont peut-être un peu plus de contraintes. Mais après, je sais qu'en recherche aussi, tu as les contraintes des deadlines pour les articles et les conférences. Donc au final, moi, je vois pas forcément les inconvénients que tu as évoqués comme des inconvénients.
D'accord, ça marche, c'est assez clair. Merci pour ce témoignage. Et en fait, du coup, Marine, toi, on est d'accord que jusqu'à un certain moment, tu hésitais à faire une thèse et maintenant, tu es sûre que tu ne veux pas en faire une.
Oui, c'est ça.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire les pour et les contre que tu avais identifiés et pourquoi tu ne veux pas en faire une maintenant?
Oui, alors... Déjà, je dirais le fait que j'ai fait un master en recherche, on était pas mal poussé par les profs et même par les différents intervenants à nous faire envisager le fait de faire une thèse. Donc, c'est ça un peu qui a commencé à me faire réfléchir. Donc, vraiment, c'est venu, ça a été une idée liée vraiment à tout ce contexte de master recherche et de plein de profs qui nous en parlent. Alors, après, moi, pour les motivations, c'était surtout pour approfondir mes connaissances, pour vraiment être spécialiste dans un domaine non défini, maîtriser un sujet parfaitement, voilà tout ce qui est un peu au niveau des connaissances. Donc ça, c'était un peu les bonnes raisons du pourquoi j'envisageais potentiellement de faire une thèse. Et il y avait quand même aussi de mauvaises raisons, notamment pour le prestige du diplôme. Je me disais, bon, bah, c'est bien, j'ai un diplôme d'ingénieur, est-ce que je ne peux pas faire encore mieux? Et je reconnais que ce n'est pas vraiment une motivation suffisante, ça.
C'est clair.
J'avais envie de me dire... j'avais aussi envie d'essayer de me dépasser, de voir jusqu'où je pouvais aller. Mais on va dire que ma motivation profonde n'était pas suffisante, je pense, pour pouvoir me lancer dans une thèse. J'arrivais pas vraiment à me projeter, on va dire, en recherche plus tard. Quand je me projetais plutôt en entreprise, parce que c'était un peu pas la suite logique, mais ce que je m'imaginais depuis que j'étais rentrée en école d'ingénieur. Et ouais, je pense que j'arrivais pas assez à me projeter. Après, ouais, il y avait quand même des inconvénients. J'avais peur de me lasser du sujet. Parce que 3 ans, ça peut être un peu long. Ça peut paraître un peu long et j'étais pas sûre de réussir à trouver un sujet qui réussisse à me motiver pendant 3 ans, ou plus même.
Ok, c'est intéressant. Donc, tu dis que tu n'arrives pas à te projeter dans le monde de la recherche. Du coup, c'est quoi ta vision pour toi du monde de la recherche?
Alors, ma vision du monde de la recherche, c'est lire beaucoup d'articles. Aussi en écrire, puis j'allais faire expérimenter des choses, essayer de développer de nouvelles choses. Bon, on va dire que principalement, quand je dis recherche, je pense article.
Ouais, ça c'est quelque chose qui revient souvent en fait, je pense. Quand on est étudiant, on pense souvent que la recherche c'est juste lire et écrire des articles et puis c'est tout.
Après, je pense pas que c'est uniquement ça, mais c'est juste, quand on dit recherche directement, il y a le côté article qui vient. Quoi.
Ok, mais ce serait que ça qui t'embêterait?
En fait, c'est pas tant que ça m'embête, hein. C'est vraiment juste que j'arrive pas trop à me projeter sur le long terme, on va dire.
Ok, très bien. Et du coup, pour l'entreprise, qu'est-ce que tu vois dans l'entreprise? Quelle vision tu as de l'entreprise qui est bien pour toi par rapport à ton projet?
En fait, je dirais pas forcément que je vois des choses qui sont bien en entreprise. C'est plutôt que je m'y suis cru, j'ai fait plusieurs stages en entreprise. J'étais assez contente de mes stages en entreprise. J'aimais bien l'ambiance des entreprises, j'aimais bien la manière de travailler. Et en fait, j'ai pas vraiment vu d'inconvénients. Donc, il y avait aussi un petit côté, je sais qu'en entreprise, j'y suis bien. Alors, pourquoi essayer de partir en recherche?
Ok, ça c'est clair. Donc, en fait, tu as pu te faire un peu ton propre recul après avoir fait plusieurs stages en entreprise. Et maintenant, du coup, tu assumes que ce monde-là t'intéresse et du coup, tu veux rester là, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est un peu la peur d'être déçu par la recherche, de ne pas y trouver, de pas y trouver mon bonheur, quoi.
Va trouver chaussure à ton pied.
C'est ça.
C'est ça. Ça marche. Du coup, maintenant, j'avais parlé avec Guillaume. Alors, Guillaume, toi, tu as soutenu il n'y a pas longtemps. Je crois que ça fait 2 ans, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est ça. Ça fait à peu près de 1 an et demi.
Ok, 1 an et demi. Donc, déjà, toi, par rapport à la thèse, du coup, c'était quoi ta motivation pour faire la thèse?
Alors, moi, en fait, j'ai un background scolaire un peu spécial. Enfin, assez typique, mais un peu spécial vers sa fin. C'est-à-dire que j'ai toujours été motivé, en fait, pour faire de l'enseignement à la base. J'ai toujours rêvé d'être enseignant de mathématiques parce que je suis passionné par l'enseignement et par ce métier. Donc, j'ai passé l'agrégation de mathématiques et à la base, je voulais aller enseigner. Le seul problème, c'est que dans ma scolarité, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai rencontré des professeurs formidables. Voilà.
À quoi c'est un problème, ça? Le seul problème.
C'est clair. Mais voilà, j'ai eu cette chance de rencontrer des professeurs extraordinaires qui m'ont beaucoup appris et enrichi au niveau de ma culture scientifique et qui m'ont donné goût vraiment à aller plus loin. Donc, j'ai toujours voulu ensuite aller en fait un peu plus loin que l'enseignement et peut-être même réfléchir à faire enseignant chercheur. Le seul problème, c'est que la vie ne m'a pas fait de cadeau. J'ai eu des problèmes de santé assez graves. Donc, j'ai dû reporter mon projet de thèse après quelques années d'abord d'hospitalisation où pendant 3 ans, j'ai eu des problèmes de santé assez lourds. Donc, pendant ce temps-là, je me suis dit, c'est pas très grave, je vais me reposer, je vais m'occuper plutôt de ma santé. Et donc, j'ai enseigné dans les lycées avec l'agrégation à mi-temps au départ et ensuite à plein temps, le temps de me remettre. Et dès que c'était fini, je suis parti vers le projet de thèse directement, et pour partir ensuite dans une aventure en thèse avec mes directeurs qui m'a passionné, que j'ai adoré, parce que voilà, pour moi, la recherche avec eux, à leur côté en tout cas, ça a été pas juste de lire des articles justement et d'écrire des papiers, mais ça a été surtout d'échanger avec des collaborateurs, de réfléchir à des problématiques complexes, des problématiques qui peuvent être aussi des problématiques actuelles, qui ont des enjeux, qui ont une histoire, qui racontent une histoire surtout, qui racontent une histoire. Et ça, c'est suivre toute cette narration qui m'a énormément plu. Qui plus est, j'ai eu la chance d'avoir deux directeurs qui m'ont apporté aussi une culture mathématique autour des problèmes mathématiques qu'on était en train de traiter, qui était assez, assez riche, hein, qui m'a énormément plu. Et donc, j'ai décidé de faire de la recherche principalement pour m'épanouir, en tout cas, dans cet objectif-là. Mais la recherche ne fait pas de cadeaux, comme je l'ai entendu juste précédemment. En effet, en France surtout, les chercheurs sont assez mal payés, mais il y a aussi en mathématiques en particulier, il existe extrêmement peu de postes dans les mathématiques. Vu le nombre limité de postes, c'était soit je décidais d'enchaîner pas mal d'années de post-doc ou d'années de galère à chercher ce que je ferai l'année prochaine pendant 5-6 ans en attendant d'avoir un poste fixe, soit je partais vers un milieu où je pouvais faire de la recherche autrement dans le privé. Donc j'ai décidé ça et en fait ça se passe super bien parce que en fait c'est une boîte qui est très bien, Compte-Métrie, la partie de Capgemini Invent où je suis. Des horaires assez flexibles parce qu'on peut télétravailler ou aller sur place ou travailler dans des conditions en tout cas qui me permettent d'être focus sur la tâche que je réalise et travailler en équipe. Il y a des réunions hebdomadaires, journalières des fois sur pas mal de choses qui permettent d'avoir des suivis sur des projets, d'avancer. Donc il n'y a pas réellement de contraintes, c'est juste qu'on est tous drivés à aller de l'avant et à avancer. C'est juste ça on a l'impression que c'est différent que la recherche publique, parce qu'en recherche publique, on n'a pas forcément un suivi aussi régulier qu'on peut avoir dans le privé, où on attend quand même, en effet, des résultats, mais surtout de justifier où on en est, quoi. Et donc ça, c'est la partie que j'aime bien. Ça permet d'être efficace et d'avancer vite dans des projets.
Ah oui, donc en fait, tu as vraiment eu un parcours atypique déjà. Bravo pour avoir continuer de vouloir faire une thèse alors même que tu te sentais mal et que tu avais des problèmes, parce qu'en vrai je pense que c'est pas forcément commun, hein. À mon avis, il y a plein de personnes qui abandonnent parce que c'est pas possible, hein. Je pense que vraiment, je savais pas cette partie-là de ton histoire, et honnêtement, bravo à toi.
Mais c'est surtout merci aux enseignants que j'ai rencontrés, à mes directeurs aussi qui m'ont soutenu, parce que lors de cette période de ma vie, c'est pas que c'était compliqué, mais c'était chaotique. Et moi, j'étais passionné par les mathématiques comme beaucoup de jeunes, souvent. Et lorsqu'on m'a tendu la main et qu'on m'a porté vers le haut, on m'a soutenu, on m'a porté pour m'amener dans ce projet de thèse, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont énormément appris. Hein. Okay. J'ai eu cette chance.
Et du coup, là, ce qui est cool, c'est que tu as pu avoir la vision du monde de la recherche et aussi maintenant la vision du monde de l'entreprise.
Exact, exact. C'est deux visions très différentes quand même, parce que l'entreprise, en effet, réfléchit quand même dans un sens d'intérêt, de qu'est-ce qu'ils y gagnent dans la recherche, alors que le public, pas forcément. C'est vrai que c'est deux aspects un peu différents de la vision de la recherche qu'il y a dans les deux milieux.
Et par rapport, du coup, à ce qu'on dit, Marine et Lila, du coup, est-ce qu'il y a un peu de part de vrai, de part de faux
Oui. Alors là, il y a une part de vrai dans le sens où, en effet, la recherche publique, elle est un peu plus libre et flexible dans le sens où on a le droit de se tromper, on a le droit d'échouer, on a le droit de tenter des choses qui ne vont pas forcément marcher ou qui n'ont pas un intérêt d'application directe. En mathématiques pures, par exemple, on va écrire un article qui va parler d'un problème mathématique et qui n'a pas d'application directe, ce n'est pas très grave. Dans le privé, dans une boîte, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, hein, parce que il faut qu'il y ait quand même une rentabilité sur le projet de recherche qu'on mène. Qu'est-ce que concrètement le projet de recherche sur lequel on va travailler va permettre d'avoir comme résultat, comme retour sur investissement, j'ai envie de dire, sur la recherche qu'on a effectuée. Donc c'est vraiment deux objectifs très différents quand même dans les deux cas. Il est possible de faire des recherches, bien sûr, comme on veut dans le privé, hein, mais il faut justifier de cet aspect-là quand même, et ça c'est assez important. Donc, c'est une question de proposer, d'argumenter et de justifier l'intérêt. Et ensuite, on nous laisse assez libre de mener ça au niveau de ma boîte si, justement, il y a un intérêt fort de faire de la R&D dans un domaine très précis.
Ok, très clair. Après, je pense que dans toutes les boîtes, ce n'est pas forcément la même chose. Mais en tout cas, dans ta boîte, on a l'impression que tu as quand même certaines formes de liberté qui ressemblent à celles qu'on pourrait avoir en recherche académique, finalement.
Bah, ce n'est pas une liberté totale. Il faut, comme j'ai dit, quand même qu'il y ait un retour sur investissement.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, le retour sur investissement, c'est un peu plus difficile à calculer quand tu fais de la recherche, j'imagine. Parce que c'est plus long terme, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Et du coup, je me demandais, avec le recul, pour toi, qu'est-ce que la thèse ça t'a apporté concrètement?
Alors, j'ai deux directeurs qui m'ont apporté deux choses très complémentaires sur la thèse. Je pourrais dire que, premièrement, ça m'a apporté une certaine rigueur, tenue, exigence, façon de présenter les choses, façon de voir le monde de la recherche, façon... de surtout d'interagir avec les chercheurs, façon de ça m'a appris une façon aussi de construire des projets de recherche, de voir à long terme, de prendre du recul, d'avoir une certaine rigueur et tenue aussi scientifique par rapport aussi à ses pairs. Voilà, ça m'a appris quand même beaucoup de choses hein, dans ce point-là. Surtout sur la fin et la suite de la thèse hein, parce qu'il y a l'après-thèse et l'après-thèse c'est aussi se construire en tant que chercheur, donc ils m'ont appris ça et, j'ai envie de dire ils m'ont un peu façonné mes deux directeurs là-dessus voilà donc mon premier directeur m'a beaucoup appris ça, le deuxième m'a beaucoup appris aussi après à persévérer sur des problématiques où peut avoir des enjeux intéressants, de creuser des domaines où des fois il faut avoir de la curiosité à regarder ce qui peut se passer si on creuse par rapport à ce qu'on sait. Voilà, en fait, j'ai une vision de la recherche qui est assez large. Et je pense que c'est pour ça que tout ce que j'entends est souvent assez pertinent. Mais je pense que la recherche, elle dépend surtout de la façon dont on souhaite la vivre et la mener.
Ah oui, c'est une belle façon de voir les choses. Je sais que c'est très marrant cette j'aime bien cette analogie de se faire, en tout cas l'idée de se faire façonner un peu par tes directeurs. Est-ce que du coup tu vois des inconvénients dans cette expérience de thèse ou il y avait que des avantages?
Alors non, j'ai même non pas du tout, j'en ai même fait une vidéo donc dessus de vulgarisation où j'explique les difficultés de la thèse. Non, une thèse c'est pas de la joie. Hein. Il faut savoir qu'une thèse il y a des moments extrêmement difficiles. Moi, le moment le plus atroce a été la rédaction. Hein. Je garde un traumatisme sur la rédaction de thèse, hein, je ne vous cache pas.
Ah, je ne suis pas encore là.
Non, c'est horrible. C'est, moi, je burn out à ce moment-là presque. Hein. Mais en plus, c'est compliqué parce qu'il faut serrer les dents et il faut être fort. Il faut être fort, il faut être courageux. Il faut savoir que l'enjeu, c'est de devenir un chercheur. Et donc, nos directeurs ou même les gens qui vont vous aider, qui vont vous entourer dans la thèse, leur objectif, c'est de vous amener d'un point A à un point B. Et donc, toutes les exigences qu'ils vont vous mettre ou les défis qu'ils vont vous donner, c'est pour vous amener à ce point B. Et des fois, c'est difficile, c'est stressant, ça crée des situations de panique, surtout au niveau de la rédaction, mais c'est normal. Hein. C'est pour notre bien. Donc, il faut serrer les dents, il faut avoir la force, mais c'est des moments très difficiles à vivre. Et moi, j'en garde donc un bon souvenir en termes de connaissances, parce que ça m'a appris énormément de choses. J'en garde un mauvais souvenir en termes de sommeil, en termes de travail, en termes de nuit blanche. Donc voilà, il y a ces moments-là. Il y a des moments aussi où on a l'impression d'être tout le temps en échec, d'être mauvais. Surtout au début de la thèse, j'ai eu ce sentiment. Quand j'allais voir mon directeur de thèse, j'avais l'impression d'être mauvais, de lui faire perdre son temps. J'avais ce sentiment d'être inutile, de lui faire perdre son temps, et en fait c'est vrai que c'est pas facile à vivre parce qu'on se remet beaucoup en question, on a l'impression d'être un boulet, alors que pas forcément, c'est juste qu'on est en train de se construire quoi. Donc il faut évoluer, il faut faire preuve de pugnacité, aller de l'avant je pense, et de tenue scientifique, savoir avoir une posture et connaître ses points faibles et savoir faire avec et apprendre à faire avec. Donc ça, c'est au début de la thèse, c'est pas facile. Et il y a ce moment de transition que je trouve qui est assez essentiel au bout de la dernière année de thèse. C'est le moment où on commence à maîtriser bien son sujet. C'est-à-dire on commence à avoir assez de recul sur ce qu'on a construit et ce qu'on a fait pour maîtriser assez bien son sujet, pour pouvoir en discuter en toute aisance avec n'importe quel scientifique qui ne le maîtrise pas forcément et de l'expliquer. Voilà, je pense que... je pense que c'est ça qui est aussi assez essentiel, c'est savoir passer durant, voilà, passer durant toutes ces étapes de la thèse, d'accord, et d'avoir assez de recul pour, voilà, pour aller de l'avant, pour ne pas avoir peur, pour ne pas avoir paniqué, parce que c'est des moments à chaque fois assez stressants, ces étapes de la thèse. Alors, j'ai un collègue qui est aussi un jeune docteur qui, lui, a même construit un fichier qu'il appelle les 10 étapes de l'enfer de la thèse. C'est assez drôle d'appeler ça comme ça. Mais oui, il y a 10 étapes, c'est vrai. Je pense qu'on peut comptabiliser ça à 10 étapes dans la thèse qui sont assez sportifs.
Ok, tu me donneras le contact pour faire un épisode dessus, c'est intéressant.
Je garde le contact.
Ça marche, merci. Ah ben, en tout cas, je ne sais pas si j'ai hâte d'être au moment de l'écriture de ma thèse maintenant. Ok.
Courage.
Merci. Donc, merci beaucoup pour cette discussion, c'est super intéressant. Et du coup, maintenant, j'aimerais parler avec toi, Teddy. Donc, toi, tu es directeur de recherche, tu enquêtes des thèses académiques et des thèses chiffres depuis quelques années maintenant. Et dans tout ce qui a été dit précédemment, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est moins vrai selon toi?
Bah donc, je suis chercheur, alors moi j'ai fait des catégories. Hein. Je crois avoir décerné trois types de motivations. Par exemple, il y a Lila qui nous disait que c'était peut-être avant tout un projet professionnel. Et donc la thèse, c'était un passage obligé. Si tu veux être enseignant-chercheur, si tu veux être chercheur, que ce soit dans le public ou dans le privé, bah, thèse. C'est peut-être aussi un moyen d'avoir... un diplôme qui est largement reconnu à l'étranger. Hein. Quand tu as fait Centrale Trifouiller les Oies, c'est peut-être connu en France, mais à l'étranger, quand tu dis j'ai un PhD, bon voilà, tout le monde sait quel est ton diplôme. Deuxième source de motivation, c'est peut-être la démarche intellectuelle, faire de la recherche. Ça, Lila aussi nous en a parlé. Faire la recherche et découvrir des nouveaux faits, prouvés, donc connus, sus, et donc maintenant inclus dans la science. Et donc, du coup, c'est peut-être apporter sa pierre à l'édifice scientifique. Alors, il faut être très modeste, hein, faut être très humble, hein. Mais ça provoque quand même une grande joie de découvrir des choses. Pour les thèses de chiffres, ça peut être, par exemple, participer à des solutions qui seront intégrées dans des produits commercialisés à grande échelle. On va dire, regardez, ces 300 lignes de code, bah, c'est moi qui les ai faites. Et puis, peut-être pour Marine, j'ai une troisième source de motivation. C'était peut-être le développement. Donc, on continue à gagner en compétences, on continue à se former, mais pas de la même manière qu'en master. On se forme avec beaucoup de liberté, en fait. Contrairement aux études supérieures, où on va, avoir plusieurs matières, explorer plusieurs directions, mais rester à la surface, là, on creuse vraiment en profondeur sur un sujet qui est peut-être large comme une tête d'épingle, et de manière beaucoup moins guidée. Bon, finalement, un sujet de thèse, ce n'est pas un problème où il faut apporter une solution. Un sujet de thèse, c'est un monde ouvert, c'est comme dans Zelda en fait, hein. C'est un monde à explorer. Donc voilà, c'est ça, peut-être les trois sources d'inspiration, enfin de motivation. Le projet professionnel, la démarche intellectuelle et puis le développement personnel.
Ouais, c'est marrant, cette analogie à Zelda, c'est parce qu'il vient de sortir, c'est ça?
Mais oui, c'est ça, c'est un monde ouvert où tu vas explorer ce monde, tu vas découvrir des problèmes qui ne t'intéressent pas, donc tu ne les regardes pas, tu vas découvrir des problèmes qui t'intéressent, tu vas... chercher à les résoudre et puis tu vas te casser les dents et puis tu vas trouver des problèmes qui t'intéressent et puis ah, là, tout d'un coup, tu as trouvé une solution. Et c'est ça en fait. Hein. Tu donnes à deux doctorants le même sujet de thèse, ils te font deux thèses radicalement différentes.
Oui, c'est vrai que chaque thèse est unique, je pense. Ça, c'est vrai que c'est l'occasion de le mentionner. Déjà, rien qu'au niveau des financements et de la façon dont c'est structuré, et en plus après, ce que fait le doctorant pendant sa thèse, je suis tout à fait d'accord que chacun a sa façon de vivre la thèse.
Oui, il faut trouver le bon angle. Et le bon angle, il est personnel. Et il dépend aussi des encadrants qui te façonnent. Ouais.
Et toi, du coup, personnellement, c'était quoi tes motivations pour faire une thèse?
Moi, mes motivations étaient très mauvaises. Moi, je suis un peu... j'étais tombé en admiration devant mes enseignants en master. Et voilà, quoi, je disais, bah, quand je serai grand, je vais être comme eux. Quoi.
Mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise, du coup, une mauvaise raison de vouloir être professeur ou enseignant parce qu'un enseignant, est-ce que tu as admiré un enseignant en matière?
Admirer un enseignant, ben, je ne sais pas. En fait, c'est pas une motivation très profonde.
En fait, ça se trouve, ce que tu as aimé, c'est juste le fait de transmettre de la connaissance, comme il l'avait dit Guillaume.
Oui. Transmettre de la connaissance et de manière à la fois élégante et efficace. Ouais. Oui.
Et du coup, tes doctorants à toi, tu connais un peu leur motivation?
Eh bien, alors là, justement, je dois te remercier de m'avoir invité parce que je me suis dit, mais en fait, je ne connais pas les motivations profondes de mes doctorants. Donc alors, ça a donné lieu à des échanges avec eux. Donc je voudrais les remercier. Donc il y avait Pierre Fernandez, il y avait Benoît Bonnet, Quentin Leroux, Victor Clotzer. Voilà, on a discuté pour dire, mais en fait, les gars, c'était quoi vos motivations? Voilà, et donc, c'était trois sources d'inspiration, là. Hein. Donc, il y a certains qui ont un projet professionnel, mais du coup, c'est peut-être pas une si bonne motivation que ça. Quand tu dis, ma motivation pour faire une thèse, c'est parce que je veux être chercheur, ça ne fait que reporter la question. Pourquoi tu veux être chercheur? Qu'est-ce qui te motive pour être chercheur? Et donc ça, par exemple, c'est pour ça que je disais que moi, c'était une mauvaise motivation. Et je voulais faire comme l'illustre monsieur Intel.
Oui, mais peut-être que derrière cette mauvaise motivation, il y a en fait des vraies motivations que tu n'as pas forcément identifiées.
Mais bon, en général, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise motivation. En fait, il faut trouver ta raison de faire une thèse.
Ouais, mais tu vois, par exemple, quand Marine nous disait faire une thèse pour avoir le titre de docteur, est-ce que tu veux... Pour moi, c'est bien plus mauvais que parce que tu veux faire enseignant.
Là, le prestige, non. C'est quand même un métier relativement ingrat où il y a très peu de reconnaissance directe. Donc, jamais on te dira que ce que tu fais, c'est bien. Au contraire, on va te dire que tu peux faire mieux. Donc, non, faut vraiment pas faire ça pour cette raison. Oui.
Et du coup, concrètement, toi, tu penses que la thèse t'a apporté quoi?
Alors, la thèse, donc, c'est une formation. Donc, du coup, ça apporte des compétences. Alors, des compétences très techniques sur ton sujet de thèse, mais aussi des compétences sur comment lire des articles, hein, pas des articles de la première phrase à la dernière phrase, comment écrire des articles, comment présenter son travail, comment échanger avec des collègues qui n'ont pas forcément la même culture que toi, qui ne manipulent pas forcément les mêmes outils, ou qui font, certains ont des démarches beaucoup plus théoriques, d'autres beaucoup plus pratiques que toi, et toi, tu dois être en fait un espèce de messager entre les deux. Donc voilà, ça, ce sont des compétences qui sont quand même rares et pas faciles à obtenir. Tu gagnes en autonomie, tu apprends à te débrouiller quand même, parce que la thèse, c'est quand même une succession d'embûches, d'épreuves, de problèmes, et donc il faut trouver des astuces, il faut sortir des sentiers battus, et finalement, au bout des 3 ans, quand je suis membre de jury de thèse, je sens toujours une petite émotion quand même du doctorant, là quand même la fierté d'avoir accompli une thèse, et donc ça, je pense que ça donne une certaine confiance en soi.
Ouais, tu rejoins un peu tout ce qui a été dit avant, ça se rejoint, je trouve ça cohérent. J'avais d'autres questions pour toi. Donc toi, tu as aussi un pied dans l'entreprise, je crois que tu as monté une boîte. Est-ce que tu vois un avantage, enfin je veux dire, est-ce qu'il y a des compétences que les gens qui ont un doctorat ont par rapport à ceux qui n'en ont pas un dans l'entreprise, je ne sais pas, est-ce que tu as l'occasion de voir ça?
Ouais, moi je trouve qu'en général, les doctorants sont quand même bien meilleurs au baby-foot et au ping-pong que la moyenne.
Ok, intéressant.
Non, je pense que ça amène de la reconnaissance, de la crédibilité. Je pense que comme Guillaume le disait, à un docteur, on va plus facilement, plus rapidement lui demander son avis sur le futur du projet. Est-ce que tu penses qu'il faut continuer dans cette direction? Est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à gratter? Est-ce que tu penses qu'il faut pivoter? Alors que quelqu'un qui sort de master ou d'école d'ingénieur, il sera quand même plutôt cantonné à un rôle d'exécutant au début. Et d'ailleurs, ça vaut le coup de considérer le scénario suivant. Donc, deux étudiants qui sortent du même master, il y en a un qui est embauché dans une boîte tout de suite, et puis l'autre qui fait une thèse. Au bout de 3 ans, finalement, il intègre la même boîte que l'autre. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Il y en a un, il a 3 ans d'expérience dans la boîte, et l'autre, il a un doctorat.
Oui, c'est une vraie question. Et du coup, tu voudrais dire quoi par rapport à cette situation? Tu as pu l'observer?
Je ne sais pas. Enfin, finalement, le doctorat, c'est une formation. Donc finalement, c'est un investissement de temps et d'énergie hein, quand même à se former, à acquérir des compétences. Est-ce qu'on va pouvoir les utiliser, ces compétences Est-ce qu'on va pouvoir les utiliser? Est-ce qu'on va avoir l'opportunité de les utiliser, de les exploiter? Donc forcément, il y a quand même une petite prise de risque en fait.
Ah bon. Alors, je pense que c'est très intéressant la question que tu viens de poser. Je la garde en mémoire parce que je pense qu'on pourra l'aborder dans un autre épisode. C'est intéressant comme point de vue de dire comparer les 3 ans d'expérience en entreprise avec les 3 ans de thèse.
Moi, je suis convaincu que comme le doctorant, il a passé 3 ans où il y avait quand même une grande liberté, hein, même s'il est guidé par ses directeurs de thèse, par son sujet de thèse, il a quand même une grande liberté de trouver des angles d'attaque, etc. J'ai l'impression qu'il est quand même plus libre dans sa tête.
Moi, je pourrais répondre un peu à revenir sur ce que vient de dire justement Teddy. Parce que, en fait, je l'ai vécu, la différence entre les 3 ans de thèse et les 3 ans dans le privé, vu que je suis dans une boîte. Et en effet, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est que la thèse en France n'est pas assez valorisée. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller dans le privé, par exemple, avec une thèse, ben, vous serez considéré comme un handicap un peu au niveau du retard d'expérience professionnelle que vous n'avez pas par rapport à quelqu'un qui est déjà venu. Du coup, bah, vous vous retrouvez voilà, avec 3 ans en moins, ou alors, 3 ans pour certains, hein, ou des fois plus pour les personnes qui ont fait des post-docs, etc. Par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir plus de 40 ans ou voilà, avoir plus de 30 ans et 30-40 ans et se retrouver au premier échelon dans une boîte privée parce qu'il considère qu'il a pris énormément de retard avec son doctorat et son post-doc et qu'il doit reprendre toute l'expérience qu'il n'a pas acquis. Donc oui, ça prend du retard, c'est pas assez bien mis, assez valorisé dans les entreprises. Je trouve ça assez dommage, en fait. Mais ça, c'est une situation très particulière à la France, donc non.
Ouais, c'est clair que le doctorat est très peu valorisé en France. Alors moi, je pense que c'est quand même moins vrai dans des domaines comme l'IA, parce que là, je pense que les entreprises ont commencé à se rendre compte quand même l'intérêt d'avoir des doctorants, même des chiffres. Il y a beaucoup de boîtes, de startups qui embauchent des chiffres.
Mais tu l'as dit, thèse, chiffres, c'est-à-dire des thèses qui ont été faites.
C'est vrai, dans l'entreprise.
Voilà.
Tout à fait. En fait, c'est parce qu'il y a, voilà, c'est très bien, ça tombe bien, ça fait de bonnes transitions avec ce dont je voulais parler à la fin. Alors, les recruteurs, ils ont souvent en tête le syndrome de Peter Pan, qui est l'idée selon laquelle les doctorants préfèrent rester dans un environnement académique un peu protégé plutôt que de se confronter au vrai monde professionnel. Mm-hmm. Bon, est-ce que, enfin, d'après vous, est-ce que c'est un sentiment qui est légitime? Enfin, moi personnellement, je le ressens pas comme ça, hein, mais.
Bah, moi déjà, c'est le rester dans le monde académique. Alors oui, peut-être que vous allez travailler dans le même campus universitaire, dans le même bâtiment que là où vous suiviez les cours de master. Mais ça n'a quand même rien à voir, quoi. Vous n'êtes plus étudiant. Vous avez la carte étudiant, ok, d'accord, mais vous êtes quand même, c'est quand même votre premier poste, c'est quand même votre premier job. Et vous êtes un apprenti chercheur plutôt qu'un étudiant.
Ouais, c'est clair qu'on est de l'autre côté du miroir, parce qu'on va quand même être amené à enseigner, avoir un propre bureau, enfin... On est rémunéré, enfin c'est vraiment. Moi, je suis d'accord aussi que c'est vraiment différent.
Et deuxième chose, c'est pas un monde protecteur. Le monde de la recherche, il est dur.
Mmh. Ouais, il peut être surtout injuste aussi. Hein.
Dur, injuste. Oui. Voilà, c'est pas le monde des bisounours. Hein. C'est pas le monde de Peter Pan.
Non, c'est vrai parce que quand on a des papiers refusés ou quand on a même des collègues. Critique violemment votre travail ou qu'on vous donne énormément de tâches d'administration ou d'enseignement et qu'on noie vos projets, c'est vrai que c'est dur à encaisser. Alors moi, j'ai pas connu ça, j'ai connu des collègues qui l'ont connu et c'est vrai que ça, il faut l'avoir en tête aussi. Ouais.
Donc au final, la thèse, en fait, c'est plus Zelda que Peter Pan, quoi. C'est ça la conclusion.
Merci Teddy de l'avoir rappelé aussi sur cet aspect-là. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé.
Ok, je pense que là, on peut un peu conclure sur l'épisode. Donc, premièrement, par rapport aux motivations derrière le projet de thèse. Teddy, il a bien résumé ça, je trouve. Donc, on peut considérer que comme motivation première, il peut y avoir le projet professionnel. Donc, en fait, par exemple, si vous voulez être chercheur, chercheuse, eh ben, faire une thèse, ça va être un passage obligé. Si vous voulez être enseignant aussi, en général, il faut faire une thèse. Il peut y avoir tout le côté démarche intellectuelle pour acquérir de la rigueur, pour apprendre à résoudre des problèmes. Qui vont demander du coup beaucoup de temps. C'est bien, c'est le principe de la recherche. Et puis il y a le côté aussi formation, donc si vous voulez être plus autonome, vous former en termes de développement personnel, puis la thèse, ça peut être une formidable occasion pour vous. Maintenant, par rapport au projet professionnel que vous... Enfin, par rapport à ce que vous voulez viser comme carrière aussi après la thèse, sachez que, on l'a bien vu dans cet épisode, faire une thèse ne vous oblige pas à faire une carrière d'enseignant-chercheur. Vous voyez, Guillaume, il voulait être enseignant au départ, et là maintenant, finalement, il se plaît très bien dans sa boîte. Nous avons aussi Teddy, qui est chercheur académique, mais qui a monté sa propre boîte, donc finalement, on voit qu'il y a plein de possibilités, donc je vous encourage d'ailleurs à écouter l'épisode 2 si vous voulez savoir un peu toute l'étendue des possibilités de carrière que vous pouvez viser après un doctorat. Je pense que si vous ne le savez pas, vous pouvez être surpris parce qu'on peut penser que ça va être que des carrières académiques, et bien pas du tout. Voilà. Donc je vais conclure là-dessus. Je remercie vraiment mes invités d'être venus pour cet épisode aujourd'hui. C'était une discussion très intéressante. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses. Et on se dit à la prochaine.
Bah, merci, oui.
Merci.
Ouais, merci à toi.
Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse Antithèse Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois.
Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.